As the creators of this film, I just want to say what a privilege it was to be given the opportunity to do our small part in the global fight against AIDS. When the host organization, AIDS 2006, came to us to put together the opening film, they came to us with a theme, Time to Deliver, and I think we mirrored exactly that in the film that we created. It brought a sense of urgency, empowerment, and accountability to hopefully this conference. What we did was create a film set in the future, 25 years in the future, a utopian vision in which many of the world's problems have been solved, and then we sort of revealed that within this utopia, the AIDS pandemic has run amok. Let me just introduce Cash, Claire Cashman. She'll talk about our partners.
Hi, I'm executive producer.
Je suis producteur exécutif. Je trouve que c'était quelque chose d'énorme pour nous. Nous sommes très, très, très fiers. Technicolor, Gravité, Kodak, tous ces gens s'engageaient dans cela. Alors, mes meilleurs voeux et amusez-vous bien avec le film.
in welcoming Yvonne Chaka Chaka, the princess and music diva from Africa.
Thank you very much. This is on behalf of all those HIV children and women who die of malaria.
Séance de clôture de SIDA 2016, la 16e conférence internationale sur le SIDA.
Je suis heureux de vous accueillir à la levée du congrès SIDA 2006. It's my pleasure to introduce my...
Je suis heureux de présenter Westatural. Westin, un travail pour la promotion de la santé ici à Toronto, un centre communautaire pour les femmes noires et les femmes de couleur. Dans la région de Toronto et les environs, elle travaille au mouvement SIDA localement, nationalement et sur le plan international pendant près de 15 ans. Alors donc, je suis vraiment très heureux qu'elle soit avec moi, la co-animatrice. Alors donc, je suis heureuse de vous présenter mon co-animateur, Ron Rosnes. Il est le vice-président de SIDA 2006 Toronto. Il fait aussi partie du conseil d'administration. C'est un ancien professeur, c'est un entrepreneur qui a vécu avec le VIH-SIDA pendant près de 25 ans. Donc, depuis sa retraite, de travail en 1991, et s'est réinventé à titre de bénévole communautaire, un chef, un intervenant pour les gens qui vivent avec le VIH grâce à son travail avec des groupes comme le Comité SIDA Toronto, Action Cancer Treatment, The Ontario HIV Treatment Network, le Sherbrooke Health Center. Et il a essayé d'améliorer l'accès au traitement et à l'appui pour les gens qui vivent avec le VIH-SIDA. Et je suis enchanté de co-animer avec lui. Merci. Comme nous le savons tous, une conférence de cette ampleur ne serait pas possible avec la commande généreuse de nos commanditaires. Nous voulons reconnaître leur générosité. Le gouvernement du Canada, la province de l'Ontario, la ville de Toronto, l'Union européenne, le ministre suédois des Affaires étrangères, un autre gouvernement, GlaxoSmithKline, Positive Action, Mac Aids Fund, OPEC Fund for International Development, Ontario HIV Treatment Network, Abbott, Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Roche, Gilead, GlaxoSmithKline, Pfizer, Irish Aid, le ministre des Affaires étrangères de Norvège, le gouvernement australien, le Globe and Mail, le commanditaire officiel, et la Société Radio-Canada, CBC Radio-Canada, notre hôte officiel télédiffuseur. Merci beaucoup. Et maintenant, je suis heureuse de vous présenter notre premier conférencier pour la séance de clôture, Graham Murray. C'est un chanteur talentueux, un écrivain qui joue la guitare, l'harmonica et le piano. Et en ce moment, est un artiste solo pour un orchestre et Hashbury. En novembre 2005, Glenn est allé en Afrique pour filmer en vidéo pour sa chanson qui s'appelle Like a Child. Ça a commencé sur Much Music le 13 janvier 2006. Et en ce moment, c'est le numéro 1 sur Cryptic Show. Accueillons Glenn Murray.
I'd like to dedicate this song to all the men.
Je dédie cette chanson à tous les hommes, les femmes, les enfants à travers le monde qui ont souffert sans raison et qui maintenant souffrent sans raison à cause de l'ignorance, de la complaisance de notre communauté mondiale et de ses chefs. Et ça s'appelle Comme un enfant.
Just 6 years old, all alone in the world, child and my, child and my. I lay my brother and sister to sleep, cry alone, where we be, child and my. Where is the world when we cry in the night? Where is the world when our parents die? Where is the world we can save? By reaching out, just like a child. Do you close your eyes to the pain in the world? Child cries out, child cries out. One hand reaches out and another joins in. Together we can all begin. Child cries out. Where is the world when we cry in the night? Where is the world? Reaching out, just like a child. We can go now. Do you go to sleep at night and worry without a care? Or can you go to sleep tonight and know that somewhere a child is all alone? All alone. Just like a child.
Thank you. Thank you, Glenn, for that beautiful and heartfelt song. Thank you.
Merci, Glenn, de cette chanson si belle. Ce café, l'autre épidémie que nous avons souffert il y a quelques années à Toronto, a été défait. Maintenant, on a eu le contraire avec cette conférence. Maintenant, vous allez voir quelques moments que nous venons de passer ensemble. J'ai maintenant le grand plaisir d'inviter Mark Weinberg sur scène. Comme vous savez, Mark est le co-président de cette conférence et directeur du Centre SIDA de l'Université de McGill, professeur de médecine à l'Université de McGill et l'un de nos scientifiques les plus reconnus à l'échelle internationale. Au cours de cette conférence, Mark est devenu beaucoup plus que ça. Personnellement, il est devenu un ami et surtout, je considère qu'il est l'un de nos grands activistes, quelqu'un qui apporte au monde entier cette question dans toute son envergure. Mark. Merci beaucoup, Ron. Chers amis, dear friends, ça a été, je pense, une semaine fantastique, n'est-ce pas? De la part de tout le chapitre de Toronto, je voudrais vous dire combien on est fier que le temps passé à Toronto a été une réussite. Je voudrais commencer en remerciant ma coprésidente, Dr. Ellen Gale, et tous les effectifs de la Société internationale du SIDA pour leur travail excellent. Je voudrais surtout remercier Daryl Perry, directeur de l'organisme local de Toronto, et aussi au directeur de Toronto pour avoir fait un travail formidable. Permettez-moi aussi de remercier nos 2000 bénévoles venus d'ici à Toronto et également d'ailleurs partout dans le monde. Ils ont travaillé sans cesse pour faire de cette conférence une belle réussite. Et merci aussi à tous ceux qui ont été payés comme effectifs. Nous avons montré, je pense, cette semaine que les partenariats entre l'activisme politique et les scientifiques et les gens souffrants, etc., peut marcher. On a reçu énormément de renseignements sur de nouveaux médicaments, sur des stratégies de prévention qui nous donnent de l'espoir pour l'avenir. Il y a justement des éléments de science et un village mondial qui, je crois, ont été comme stratégie quelque chose d'imbattable. Beaucoup ont dit aussi que celle-ci était l'une des meilleures conférences, meilleures à jamais, pour lier le Nord et le Sud, pour ne rien dire des longues promenades forcées que vous avez dû entreprendre pour aller d'un bâtiment de ce centre de conférence à l'autre. Je voudrais également remercier les membres de la communauté académique au Canada et ailleurs, mais surtout à Toronto, qui ont aidé à organiser cette conférence. L'Université de Toronto est une université de classe mondiale qui est à la première ligne dans la bataille contre le sida. Merci de nous avoir prêté vos membres académiques qui nous ont donné tellement d'aide et de leadership. Mais je voudrais également vous faire rappeler à tous que cette conférence ne peut pas être considérée comme réussite si nous ne nous rendons pas compte que notre thème est justement que c'est le moment de passer à l'action. Si nous ne faisons pas une expansion élargie, les millions de gens vont rester quand même sans accès aux médicaments antirétroviraux. Il est clair que le progrès ne peut pas être une réalité si les gens continuent à s'infecter chaque année en plus comme nombre que ceux qui sont en traitement et commencent à se guérir. Alors, il est correct que nous posions le problème. Combien de gens sont malades parce que les leaders du monde n'ont pas honnêtement considéré avec leurs gens ces questions de vivre avec le VIH-SIDA? En Afrique du Sud, à titre d'exemple, pays qui a plus de cas de VIH que n'importe ailleurs dans le monde, les leaders encore ne parlent pas de façon ouverte de VIH. Ils parlent de la limonade comme stratégie clé de prévention. Nous savons tous que de telles conversations, comme se servant de cela comme prévention scientifique, c'est quelque chose qui n'est absolument pas vrai. Pourquoi est-ce que les leaders gouvernementaux qui doivent envoyer des messages critiques à leur population, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ce fait tellement fondamental? Beaucoup de vous avez entendu mes remarques lors de l'ouverture où je me plaignais de l'absence à notre conférence de notre premier ministre, M. Stephen Harper. On doit noter quand même que le gouvernement du Canada a été très généreux pour nous à cette conférence. Nous sommes bien reconnaissants. Nous pouvons également mentionner que la critique directe des leaders politiques qui s'est entendue à cette conférence serait peut-être plus difficile dans certains autres pays. Je suis fier d'être Canadien et je suis fier que j'habite. Je suis fier d'être Canadien et je suis fier d'habiter, de vivre dans une démocratie mûre où peut-être le droit au discours libre est peut-être une de nos libertés les plus aimées qui nous donne le pouvoir de parler justement de questions de santé publique. Il est probablement le moment aussi de dire plutôt probable que le président du Mexique soit présent lors de la prochaine conférence sur le sida. Nous espérons que vous avez tous bien aimé cette semaine avec nous. Quittons ce lieu en pensant que nous allons maintenant travailler dur. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le moment de passer à l'action. Merci beaucoup. Notre prochaine conférencière est une jeune femme, Keisha Locken. Elle est membre du réseau VIH-SIDA. Elle vit avec la maladie depuis 1989 et a consacré sa vie à l'éducation des communautés autochtones sur la question. Veuillez souhaiter la bienvenue à Krista Locken. Bon après-midi. J'aimerais reconnaître les gens traditionnels et indigènes, la tribu Mississauga, qui est propriétaire de la terre sur laquelle nous nous trouvons. Je me trouve devant vous aujourd'hui avec mère, comme mère et personne vivant avec le VIH. En 88, ça m'a été transmis de par mon partenaire. Je ne le savais pas. Au moment, être atteint de sida, c'était la mort. Ça, c'est une tristesse que j'ai parce que nous avons déjà perdu énormément de nos frères et sœurs à cette maladie. Aujourd'hui, je me trouve devant vous avec ma fille en tant que mère. Selon notre tradition du peuple Kwakwaka'wakw et Kiwani du Canada, nous avions traditionnellement ce qu'on appelait des rites de passage lorsque un jeune homme ou une jeune femme faisait se transférait de l'état de l'enfant à l'état d'adulte. Cette tradition n'est plus en existence parmi beaucoup de nos tribus parce que notre culture et notre langue a été l'objet répété de défis et de destructions depuis 500 ans. Sans reconnaître ceci, nous ne pouvons pas reconnaître où nous allons à l'avenir. Notre peuple parle de ce que notre avenir, c'est nos enfants qui vont porter, nous porter sur leurs épaules lorsque nous sommes malades. C'était comme ça que cela devait être, que cela devrait être. J'ai visité beaucoup de communautés au Canada et aux États-Unis pour mettre à visage au VIH, pour montrer à mon peuple que cela a lieu pour nous et que ça se fait à un niveau, comme proportion, à un niveau d'épidémie. Cela se fait entre les Premières Nations du Canada. Et je vous dis, oui, c'est une épidémie parmi les Premières Nations. C'est une épidémie qui est bien en vie dans nos communautés autochtones. Je ne serai plus silencée et silencieuse sur cette vérité. Pour parler de cela, il faut parler de la colonisation et du génocide culturel de notre peuple. Ce sont des sujets très douloureux que discuter. Il est difficile pour moi de dire à ma fille qui est demi-autochtone ce que c'est que l'histoire du Canada et l'histoire des autochtones de ce pays. Mais qu'elle puisse savoir où aller à l'avenir, elle doit savoir d'où elle vient et quels sont les défis auxquels elle fait face dans son propre avenir.
J'ai voyagé à travers des communautés partout au Canada. Je suis allé dans des communautés où tous les membres de la communauté communiquer avec l'aide d'un traducteur pour les étrangers. Ce sont les Inuits, les Cris, les Dénés. Ce sont les gens qui sont les gens indigènes, même à moi. Et les conditions sociales dans lesquelles vivent ces gens-là, ça ressemble beaucoup aux pays du tiers-monde qui sont toujours en voie de développement. Je suis allé dans des communautés où il n'y a pas d'eau courante. Et vous devez marcher afin de vous rendre à une clinique de santé. Je dois reconnaître que les indigènes du Canada sont les gens en voie de développement au Canada. La raison pour laquelle j'ai dit ceci, c'est que je veux que nous soyons reconnus au niveau international pour les défis auxquels nous faisons face et de la complaisance du gouvernement fédéral à l'égard de notre population sur les réserves, la population qui est fortement touchée par cette maladie. Je plaide auprès de la communauté internationale de nous inclure dans vos discussions internationales et veuillez, s'il vous plaît, nous aider. Car ceci est une épidémie en train de tuer notre population. Ça affecte notre génération, nos enfants et nos petits-enfants. Et lorsque nous parlons des sept générations, la septième génération s'en vient. Et comment allons-nous leur dire comment nous avons répondu à cette maladie? Comment allons-nous leur dire nous n'avons pas fait assez? Et nous aurions dû faire davantage, et nous aurions pu faire davantage. Je vous demande, à titre de mère, de vous poser la question suivante. Je vous demande de regarder bien profondément dans votre cœur, de trouver une façon d'aider tous les gens du monde entier qui vivent avec le VIH. L'un des défis que nous avons dans notre communauté autochtone au Canada, c'est on s'attend à ce que nous ajustions à une méthode de pensée non indigène de faire les choses, de croire, et d'éduquer nos propres enfants. Et je suis ici pour vous dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner. À mon avis, c'est une façon de coloniser davantage et de nous supprimer. Et ce n'est pas acceptable. Je ne veux pas ignorer le travail que nos frères et sœurs ont fait au niveau international parce que nous entendons vos plaidoyers, vos pleurs, et nous sommes avec vous. Et nous serons au Mexique en 2008. Vous pouvez compter sur nous. L'une des raisons pour lesquelles ma fille est ici, à côté de moi et devant vous, c'est que ses droits de passage sont arrivés dans le monde du sida. Sa vie a été affectée directement par le VIH. Et si j'avais le cancer du sein, elle aurait bien plus d'appui dans la société de tous les jours. Mais comme les choses sont ce qu'elles sont, Enfin, je sais que ça semble être une contradiction, mais nous devons faire attention à qui nous parlons et qui sait, à cause de la stigmatisation et de la discrimination d'avoir, qui demeure toujours quant à cette maladie, de l'appui de mes enfants et des générations à venir, sur la réserve, à l'extérieur de la réserve, métis, inuit, traité, non traité, peu importe la façon dont le gouvernement nous appelle, nous n'allons pas disparaître. Je vais maintenant, c'est ma deuxième décennie de vie au VIH. Comment et pourquoi je suis en vie aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons beaucoup de défis à relever devant nous. Je suis profondément engagé, ma vie, dans ce travail. J'aimerais vous remercier à chacun d'entre vous qui ont rendu possible cette conférence aujourd'hui parce que nos histoires sont si importantes. Cela me rappelle pourquoi nous faisons ce travail. Cela nous rappelle pourquoi c'est si important. De la CASA. Merci. Collègues, amis, invités, nous sommes fiers à Toronto d'être un endroit d'accueil pour les voix de dissension, un endroit qui donne de la place à toutes les voix. On nous a demandé en ce moment, dans le programme, de permettre à certains groupes qui ont des messages qu'ils aimeraient présenter. Nous avons consenti à donner à chacun de ces trois groupes une minute chacun. Votre attention, s'il vous plaît. D'abord, de la campagne de l'Afrique du Sud, Kansane Mabasa. Bonjour. La chose dont je veux parler, l'habitabilité. Il y a une demande de la société civile, de tous les gens qui vivent avec le VIH et de toutes les organisations qui sont touchées de mettre en action pour que les leadership politiques responsables pour faire ou de remplir les promesses qui ont été faites. Et aussi un appel aux experts, aux scientifiques, non pas de faire des recherches sur les statistiques, mais aussi des recherches sur la prévention, de le traduire de façon à ce que l'épidémie soit réduite. Aussi, ce que nous demandons, c'est la question des cibles de la prévention et du traitement d'ici 2007. La troisième chose, c'est le jour international d'action sur la violation des droits de la personne, particulièrement les gens qui vivent avec le VIH, qui sont séropositifs, comme vous pouvez le voir. Et dans les régions rurales, la chose qui se produit, c'est que les gens qui sont séropositifs sont violés tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Alors nous avons une demande pour la journée internationale d'action, qui, là où tous les gens, tous les survivants, nous allons assurer qu'il y a un plan d'action pour s'assurer que ces choses se produisent. Et en dernier lieu, c'est la question de femmes. Nous parlons de la participation enfin des femmes avec le sida, le VIH, mais lorsque nous voyons dans ces conférences, c'est qu'on voit que seuls les professionnels, seulement les intellectuels parlent. Mais nous qui vivons avec le VIH, nous sommes ici, nous sommes simplement le nombre qui sommes, d'entre nous qui sommes ici. Et la dernière lieu, c'est l'appel d'appuyer la condamnation de la gestion en tutelle sur ceci, et qui veut amener tous ses travailleurs, tout son personnel qui porte un ruban rouge. Alors c'est un appel à tout le monde qui nous entend ici de s'assurer que nous condamnons ça parce que c'est une violation des droits de la personne. Merci. Merci, merci. Du Dalit Network of Positive People, Lou Dantec. Laissez-moi entendre la voix des gens qui vivent avec le VIH et le SIDA. L'accès universel, c'est un droit de la personne. C'est immoral, inacceptable et injuste. Et lorsqu'il y a des gens pour acheter la vie, alors que les pauvres sont condamnés à souffrir sans nécessité et à mourir précipitamment, nous demandons l'accès universel et gratuit à tous les médicaments. Le gouvernement, les officiels ici, rappelez-vous, notre vie est en jeu. Merci. De Front Aid Russia. Le Ruska Federation d'Alexandre Runatsia. Bonjour, je suis de Russie et je veux parler d'une façon bien russe. Oh, selon lequel le système de marché est incapable de remettre des médicaments aux gens qui en ont besoin. Non à l'impérialisme des sociétés pharmaceutiques. Ils ne devraient pas décider le prix de nos vies. Les activistes à travers le monde, unissez-vous. Ils devraient savoir que nous sommes partout. Dans un sommet, un médecin de Karolinska Institute de Suède, Dr. Nanskum, est en ce moment le directeur intérimaire de l'Organisation mondiale de la santé, Dr. Hochstrom. Merci. Merci, chers collègues. Je suis intimidé après la dignité, après des collègues que nous venons d'entendre le temps de passer à l'action. Au cours des dernières années, nous avons des séquences d'importantes promesses politiques pour résoudre le problème de l'obésité. Le résultat est un engagement sans précédent de travailler à l'accès universel, à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui. Cependant, pas plus de déclarations sont nécessaires maintenant. C'est le temps de passer à l'action sur les promesses qui ont déjà été faites. Cette conférence a souligné l'importance d'une concentration plus forte sur les femmes et sur les jeunes à travers le monde, qui sont les plus grandes victimes et qui ont besoin d'une attention particulière. Chacun d'entre nous, maintenant, alors que nous préparons notre chaîne, devons prendre avec nous un sens vigoureux de cette responsabilité à l'action. Il y a trois éléments clés dont j'aimerais parler. Alors, pour l'action et la livraison, c'est une question d'argent, des médicaments, et aussi des travailleurs de la santé qui sont motivés. Je commence avec l'argent. Il y a eu des progrès importants à travers le monde. Les ressources sont passées à 8 milliards de dollars l'an dernier, mais ce n'est pas suffisant. Les besoins estimés dans les pays à faibles et moyens revenus, c'est 50 milliards de dollars américains. Alors, cet écart grandissant doit être comblé et l'engagement maintenu. Ce n'est plus une question d'urgence. C'est comme Peter Thiel l'a dit dans son discours d'immigration. C'est un ordre du jour à long terme sur lequel nous devons nous concentrer. C'est un appel pour une plus grande aide internationale. L'innovation des mécanismes financiers commence à sortir maintenant, comme par exemple l'unité initiée par la France, la Chine, le Chili, qui veulent éliminer les taxes pour permettre à plus d'argent d'être disponible pour le VIH-SIDA. Ça, c'est bienvenu. Le mois dernier, j'ai participé à la rencontre des G8 à Saint-Pétersbourg et tous les chefs du G8 se sont engagés sur le plan politique au niveau de l'appui. Mais il faut les tenir responsables de leur engagement. Il faut aussi travailler sur le plan domestique. Les gouvernements nationaux doivent faire du VIH-SIDA une priorité de financement. Laissez-moi maintenant, je passe à la médecine. L'accès aux médicaments, ça demeure un côté critique. De loin, enfin, cela change l'environnement et la pensée. Les progrès doivent être maintenus. Et l'accroissement à désoler des gens qui sont traités en Afrique subsaharienne, ça démontre qu'on peut y arriver. L'Afrique subsaharienne reflète aussi le fait ça démontre qu'est-ce qu'il reste à faire. C'est 70% des gens qui ont besoin de soins à travers le monde. Il y a un élan pour l'innovation, pour la recherche et les questions de propriété intellectuelle, pour garantir un accès maximal aux nouveaux produits qui sauveront des vies. Nous avons besoin d'avoir des idées pour rendre les nouveaux médicaments et diagnostics qui renforcent notre capacité de sauver les enfants ainsi que les adultes. Nous devons investir davantage dans le développement de nouveaux outils de prévention, notamment les microbicides et bien sûr le vaccin. L'appui à ces besoins vient de toutes sortes de directions. Les engagements sur le plan du marché, comme par exemple le développement et la recherche de médicaments et de vaccins. Le prix, la façon dont on fixe le prix. On a fait des progrès assez intéressants. Mais cependant, ils font faire bien davantage encore là. Le mois dernier, j'étais dans une rencontre avec le secrétaire général Kofi Annan, avec d'autres des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. Je pense que nous avons une discussion très concrète sur ce que l'on peut faire davantage quant à l'accès à des médicaments de deuxième ligne et les médicaments qui ciblent les enfants. ONU-SIDA joue un rôle très important dans la poursuite de l'attention mondiale sur là où on doit disséminer les ressources, là où ils ont besoin, surtout avec la fondation de Bill et Melinda Gates. Pour le Fonds mondial, cela doit être suivi par d'autres, et aussi pour leur appui à de nouvelles technologies dans le domaine de la prévention. Et en fin de compte, et peut-être la question la plus importante pour garantir le succès dans la réalisation du traitement universel, c'est une main-d'œuvre motivée. Je suis très heureux que la conférence soit enfin concentrée sur là-dessus. Il n'y aura pas d'amélioration dans le financement et les produits. Il va y avoir une grande différence jusqu'à ce que la crise de la main-d'œuvre soit résolue. La situation demande des gestes draconiens. Il y a trop peu de gens avec les bonnes compétences. Plus de personnes inscrites à cette conférence qu'il n'y a de médecins dans l'Ouest de l'Afrique. le nombre des travailleurs de la santé est réduit quotidiennement par la mort et le manque de motivation. Les pays avec la prévalence de SIDA de 15% et plus vont perdre un fort pourcentage de leur main-d'œuvre au cours des prochaines années. Il est donc essentiel de protéger et d'appuyer nos travailleurs de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, les 3T, alors former, retenir, doit être mise en place pour motiver la main-d'œuvre. La solution doit aussi s'attaquer aux causes sous-jacentes de cette pénurie. Ce n'est pas une question de formation seulement. C'est aussi une question de reconnaître que les travailleurs de la santé sont renvoyés, enfin sont éloignés par les mauvais salaires et les mauvaises conditions de travail. Il y en a qui vont prendre d'autres emplois ou alors déménager. Bien sûr, les travailleurs de la santé sont seulement mais un des facteurs très importants dans ce système efficace de la santé. Il y a aussi un besoin de bonne information et de systèmes de surveillance, de logistique, ainsi de suite. Et pour conclure, nous devons relever notre réponse à une démarche de santé publique. L'Organisation mondiale de santé, le VIH-SIDA, s'est basée sur les principes de la simplification, la normalisation, la décentralisation et l'égalité, ainsi que la participation des communautés. Pour réaliser ces principes, il faut travailler différemment. Nous avons besoin de synergie dans nos réponses. Trop de ressources, le temps, l'énergie et l'argent ont été perdus dans le débat, à savoir si la prévention ou le traitement devrait être la priorité. Je pense qu'à la conférence ici, nous en sommes venus à une compréhension très claire que ce n'est pas un cas de faire les choses un ou l'autre. Des millions de personnes sont mortes à cause du manque des deux. Il faut confronter les deux, les causes et les effets. Et aussi, comme nous l'avons entendu, ce qu'il faut faire, c'est la synergie dans notre travail ensemble. Personne n'a la capacité de gérer le VIH-SIDA seul. L'accès universel, les demandes, une réponse universelle. Pensez à ceci comme une société sans frontières, une qui inclut tout le monde dans le continuum de la prévention du SIDA, le traitement, l'appui. Alors, ça touche tous ceux qui peuvent faire une différence, les chefs politiques, les scientifiques, les travailleurs de santé, les jeunes qui vivent avec le VIH-SIDA, les pauvres, les travailleurs de sexe, ceux qui injectent la drogue, les hommes qui ont du sexe avec les hommes, les gens qui sont en prison. Ça inclut les ONG, la société civile, les activistes, ceux qui offrent des services privés, les groupes communautaires. Et ça inclut non seulement le secteur de la santé, mais aussi l'éducation, les finances et les autres secteurs. Nous avons besoin d'une perspective basée sur les genres, pour s'assurer que les hommes et les femmes, les garçons et les filles reçoivent les mêmes occasions. Nous sommes tous responsables maintenant pour les prochaines étapes, alors que nous allons rentrer chez nous. Cette semaine, un éventail de conférenciers étonnants nous a confrontés avec les plus grands défis à relever dans notre époque. Alors finalement, j'aimerais les remercier, un collègue J.W. Lee, l'ancien directeur de WHO, qui a joué une partie très importante pour forcer un virage dans l'attitude pour relever ces défis. Il a montré que l'on pouvait y arriver. Les gens qui ont lancé des défis lorsqu'ils lançaient le 3x5, on a vu que ce traitement est possible. Maintenant, le plus important de ces défis que nous devons relever, c'est d'appuyer tous les pays à amener la main-d'œuvre dont ils ont besoin. L'accès universel doit inclure l'accès à du personnel de la santé compétent. Il faut livrer l'argent, les médicaments et une main-d'œuvre motivée et expérimentée. Merci. Et maintenant, je suis heureuse de présenter Stephen Lewis, dont les réalisations, enfin, c'est difficile d'y rendre justice ici. Stephen Lewis est le président de la Fondation Stephen Lewis. Il est l'auteur d'un grand vendeur, Less Against Time, et l'envoyé spécial de l'ONU en Afrique sur le SIDA. C'est un social-démocrate, un diplomate, et il a consacré beaucoup de ses efforts humanitaires sur le continent africain. Monsieur Lewis, sa carrière aux Nations Unies a duré pendant plus de deux décennies. Nous souhaitons la bienvenue à Stephen Lewis. Madame la Présidente, merci. Je suis privilégié de me joindre à ce groupe extraordinaire de participants et surtout, si vous permettez, d'intéresser avec Kisha Laka et de sentir le pouvoir de la voix des indigènes, des aborigènes au Canada, qui a, avec tant de courage, fait face au virus en chiffres tellement disproportionnés. Je vais parler avec une rapidité supernaturelle. Alors, donc, soyez patients. C'est le dernier discours que je vais faire dans une de ces conférences à titre d'envoyé des Nations Unies. Je suis heureux, pour des raisons évidentes, que ce soit à Toronto, mais je suis aussi heureux parce que ça a été une excellente conférence qui a couvert tout un éventail de sujets. Alors, donc, j'ai confiance en vous demandant de vous joindre à moi en donnant de la force au mantra, soit refuser, soit répéter le temps de passer à l'action. Enfin, qu'est-ce que cela veut dire? Laissez-moi vous dire quelques sujets. D'abord, abstinence seulement, ces programmes ne fonctionnent pas. Idéologie, la rigidité idéologique ne fonctionne jamais lorsqu'on l'applique à la condition humaine. Et c'est un dinosaure de dire que n'importe quel gouvernement devrait comment allouer son argent pour la prévention. Cette méthode a un nom, ça s'appelle néocolonialisme.
la réduction du dommage. Ces programmes fonctionnent. L'échange des aiguilles et les traitements de méthadone sauvent les vies. Ce serait pervers de fermer l'installation de Vancouver où on peut s'injecter en toute sécurité. Alors que ça a été évalué d'une façon positive par bon nombre d'études, en fait, il devrait y avoir d'autres installations au Canada et à travers le monde. La Russie, l'Asie centrale, des parties d'Asie font face à ce problème de transmission pour inviter l'infection VIH. On doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête qui vont punir les gens qui injectent la drogue plutôt que de comprendre le problème pour ce qu'il est sur des questions de santé publique. La circoncision à titre de prévention ne devrait pas être sujette à des obstacles bureaucratiques. Nous avons suffisamment d'informations maintenant de savoir que c'est une intervention qui vaut la peine de poursuivre. Alors ce qui reste à savoir, c'est un effort concentré pour transmettre le monde, de respecter les sensibilités culturelles. Ensuite, pour ceux qui veulent procéder, de s'assurer que nous avons du personnel bien formé pour faire l'opération. Nos hommes sont en ligne pour la procédure au Swaziland. Et lorsque j'étais dans la Zambie, dans la ceinture de cuivre, j'ai eu une rencontre avec le commissaire du district. Il a indiqué qu'il fait partie d'un groupe ethnique qui était circoncis. Et ensuite, j'ai révélé que moi, j'étais circoncis. Et alors, par conséquent, alors il y a eu toute une frénésie d'amitié entre hommes. Parmi tous les circoncis, le fait est ceci, c'est que même dans les parties les plus éloignées de l'Afrique, il y a maintenant une sensibilité de la question. C'est important d'agir là-dessus. Numéro 4, la passion croissante sur les microbicides, c'est justifié. C'est une technologie qui, dans le temps, est venue pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de retard dans la question pour le vaccin. Mais il semble, là où les technologies de prévention sont concernées, le microbicide est le premier en ligne. Alors c'est maintenant le temps de faire des avances, que lorsque les découvertes seront en place, que ce sera instantanément disponible et acceptable aux femmes, de toutes les femmes du monde, peu importe où elles habitent. Numéro 5. Dans la hiérarchie des mesures de prévention, la prévention de la transmission mère-enfant est au sommet, est près du sommet. C'est une charge très amère que très peu, si peu de femmes enceintes en grossesse ont accès à TCP, mais c'est seulement la moitié du problème. Il est inexcusable qu'en Afrique et dans d'autres parties du monde en développement, que nous continuions à user des doses simples de Riopine plutôt que la thérapie complète. La triple thérapie, comme nous le faisons dans les pays occidentaux comme le Canada, cela veut dire que des centaines de milliers d'enfants vont continuer à naître séropositifs plutôt que de réduire le taux de transmission virtuellement à zéro. Je demande, dans quel genre de monde vivons-nous où la vie d'un enfant africain ou d'un enfant asiatique vaut si peu comparé à la vie d'un enfant canadien? Numéro 6. Il est maintenant accepté comme une grande vérité que les gens qui sont sous traitement ont besoin de bonne nutrition pour tolérer leur traitement. Cependant, il y a une réclamation avec les gens qui vivent avec le sida et que l'alimentation n'est pas là. Alors, les laissant dans le désespoir, le programme d'alimentation mondiale a publié un rapport en donnant le coût de 66 cents par jour pour toute une famille. Alors, quelle est cette folie qui empêche le World Food Program d'avoir l'argent nécessaire pour donner cet argent? Numéro 7, l'une des questions qui a reçu pas assez d'attention, c'est la violence sexuelle contre les femmes. Il y a à peine quelques mois, je visitais l'hôpital local Antikak au Kenya, qui héberge le seul, le conseil de viol, la montée des viols. Ça veut dire qu'il y a plus de 30 nouveaux qui ne sont pas rapportés. Alors, en avril de cette année, il y avait 46 cas de viol. 22 étaient en bas de 18 ans. La moitié de ceux-là étaient en bas de 12 ans. Bien, c'est terrible, bien sûr, oui, sans nul doute. Mais comment caractérise un pattern du viol de femmes entre l'âge de 20, 65 et 80 ans? La confiance de ceux qui font des viols, qu'ils peuvent violer avec impunité sans la crainte de transmission. La violence sexuelle est partout, entre le viol dans le cadre du mariage et le viol comme crime de guerre. Nous vivons dans un monde, une communauté, où la dépravité de la violence sexuelle est devenue hors contrôle. En Afrique, cependant, la violence et le virus vont ensemble. Malgré tout, nous n'avons pas les lois, la jurisprudence, l'application de la loi qui donnerait aux femmes au moins un minimum de protection. Si jamais il y avait une cause pour mobiliser les activistes du sida à travers le monde, c'est ça.
Numéro 8. Nous avons besoin
urgent d'avoir des conseils. Nous avons fait des progrès à ces conférences, mais ce n'est pas des progrès vraiment définitifs. Il me semble que le testage et les conseils routiniers avec le besoin de protéger les droits de la personne, c'est quelque chose sur lequel nous sommes tous d'accord. Au lieu de ce deux, il y a la campagne sur le Know Your Status, connaître ton statut, sera, je pense, être la norme qui va montrer comment faire pour tout le continent. Numéro 9, il y a une épidémie d'abus contre les enfants, d'abus sexuels. C'est très différent des abus des femmes. Mais il y a toujours le danger terrifiant de la transmission. Les enfants ont besoin de différentes interventions. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu articuler une réponse adéquate. Les enfants, malheureusement, sont tout en bas de l'échelle quant aux priorités du monde. Et ceci depuis 25 ans qu'existe la pandémie. Numéro 10, il est impossible de parler des enfants sans parler des orphelins. Et il est impossible de comprendre comment, à l'an 2006, nous puissions encore ne pas mettre en action des politiques qui solutionnent ce phénomène. Les enfants sont sans fond. Une des données les plus horribles dans les statistiques, c'est que de 3 à 5% des orphelins seulement reçoivent n'importe quelle sorte d'intervention de la part de l'État. Il y a tellement d'orphelins, tellement orphelins parce que la pandémie existe depuis si longtemps. C'est là un défi presque insupérable dans les pays où ils habitent. Je demande à tous de reconnaître que nous sommes à côté de l'abysse, que c'est là quelque chose qui aura un impact cumulatif terrible. Ces orphelins, leurs besoins personnels, leur vulnérabilité collective frappent au cœur de la dynamique humaine. Cela vous parle de ce dont est possible la gamme de rapports humains. Notre réponse est microscopique. Nous invitons chez nous, dans notre foyer, le vent de la mort et on ne sera pas capable de trouver une solution une fois la porte ouverte. Numéro 11. Il est impossible de parler d'orphelins sans parler de grand-mères. Qui aurait jamais imaginé qu'on serait à ce point ? Les grand-mères, maintenant en Afrique, sont les héroïnes du continent. Ces femmes extraordinaires, avec une résilience extraordinaire, qui luttent contre la perte de leurs propres fils et filles, qui deviennent parents, encore une fois, âgés d'une soixantaine, de 70 ans, de 80 ans. Les grand-mères étaient magnifiques, mais elles luttent toutes avec le même cauchemar. Qu'est-ce qui va arriver à mes petits-fils, mes petites-filles, lorsque moi, je meurs? Nous avons besoin de programmes qui puissent reconnaître les contributions de ces donneuses de soins tellement essentielles, les contributions qu'elles font à la société. Il s'agit de travail légitime et difficile. Il faudrait donner aux grands-mères de l'Afrique de la nourriture, l'argent pour l'école, toutes d'autres choses. Encore un test pour les délégués de cette conférence. Numéro 12, et je me mets avec mon collègue Panders. Au milieu de toutes les autres choses, il faut continuer à les traitements. Les nouveaux chiffres me donnent du souci. Il y avait en 2005 un million de gens en traitement. 6 mois plus tard, il y a 500 000 de plus. Ça me semble, il me semble que le traitement garde en vie les gens. Le traitement amène l'espoir. Le traitement stimule la prévention. Le traitement veut dire qu'il y a des soins basés au sein de la communauté. Nous ne pouvons pas permettre que le processus ralentisse. Numéro 12. Numéro 13. Et pendant que je parle de la question du traitement, bien sûr, je vais parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est l'insulte la plus douloureuse, la plus grave. C'est le seul pays de l'Afrique, parmi tous les pays que j'ai visités dans les 5 derniers ans, dont le gouvernement est encore, de nos jours, obtus et pas diligent et offuscatoire quant à l'accès et disponibilité de traitement. C'est le seul pays d'Afrique dont le gouvernement continue à expliquer des théories qui sont plutôt pour des gens fous, plutôt que quelque chose qu'on entendrait de la bouche d'un État plein de compassion. Entre 600 et 800 personnes par jour meurent du sida dans l'Afrique du Sud. Ce gouvernement est coupable de beaucoup. Et à mon opinion, ils ne pourront jamais atteindre l'état de rédemption. On dira que je n'ai pas le droit de dire quelque chose d'un membre, pays membre de l'ONU. Mais comme envoyé spécial pour l'ONU, je considère que mon travail, c'est de parler, d'être la voix des gens qui vivent avec le virus, qui meurent du virus. Tous ces gens, toutes ces personnes, dans la société civile, en dehors de la société civile, qui lutte, faisant la bonne lutte pour la justice sociale. Ce n'est pas mon travail de rester silencieux lorsque je sais qu'un gouvernement fait quelque chose qui est immoral, qui est une insulte aux droits de la personne. ce matin, Jackie Amat, le chef de la campagne d'action en traitement, et 44 de ses collègues ont fait une manifestation contre une mort particulière de sida qui n'aurait jamais eu avoir lieu, ont été arrêtés en Afrique du Sud. Je suppose qu'ils ont été accusés et puis alors on les a relâchés. C'est vraiment déprimant lorsque l'apparat de coercion de l'État est utilisé contre les membres de la société qui ont le plus de principes. Numéro 14. Beaucoup ne savent pas que nous sommes devant une crise financière. Je crois que nous avons l'impression d'une sécurité parce qu'on est allé de 3 millions à 8,8 millions de dollars en 2005 comme dollars disponibles pour le SIDA. Mais nous avons besoin de 20 milliards en 2008 et on ira à 30 milliards en 2010. Donc le moment de l'accès universel au traitement, à l'accès et aux soins, on manque de milliards et de milliards de dollars. Si ces circonstances continuent, l'accès universel ne pourra jamais, jamais exister. Tous les gouvernements doivent faire une expansion de leurs initiatives. Tous les gouvernements ont peur et ils font bien d'avoir peur de leur capacité de donner assez d'argent. Parce que déjà, il y a des programmes qui se défont. Nous n'allons jamais accumuler les 25 milliards nécessaires. PEPFAR n'a pas encore annoncé son extension au-delà de 2008. Lorsque arrivera ce moment, la contribution sera probablement encore de 3 milliards par an. C'est un pourcentage très significatif de ce qu'on a donné pour le SIDA en 2003, en 2004, mais comme pourcentage de ce dont on a besoin pour 2008, 3 milliards contre 20 milliards, ça semble bien peu si on parle surtout de 3 milliards de la part du pays superpouvoir du monde. Je vais faire quelque chose de profondément inorthodoxe. Vous avez, de moment à autre, interrompu avec des applaudissements. L'écran devant vous me dit « Veuillez terminer », mais j'ai trois choses encore à dire. Est-ce que vous me donnez la permission collective de continuer et de les dire, les trois choses que j'ai à dire? Le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme manque d'un milliard pour l'année prochaine. Il n'y a pas moyen de trouver cet argent. Il est presque inconcevable que les promesses extravagantes de Glenn Eagles, des leaders, soient tellement fatueuses que soit compromis maintenant ce fonds. Personne ne demande que ce qui a été promis. Mais la trahison pavlovienne du Sud a déjà commencé. Tout dans la bataille contre le sida est mis au risque par le comportement de groupes industrialisés du G8. Le docteur Montaner hier a parlé de ce comportement comme étant le génocide. Je me rappelle en 2001, dans un article pour le journal Globe and Mail, j'ai utilisé l'expression « meurtre de masse ». Il est difficile de ne pas aller jusqu'aux extrêmes linguistiques, parce que cette question de ressources, ou bien solutionne la pandémie ou pas, il est absolument nécessaire qu'on ne laisse jamais en liberté les pays du G8 sur cette question de fonds octroyés. J'avais aussi le sujet de la capacité, mais ce que j'allais dire, ça ressemble un peu à ce qu'a dit André, alors je passerai aux éléments finaux. Ce qui doit se faire, je pense, c'est qu'on est à un moratorium temporaire sur la prolifération sans fin et auto-indulgente, sur ces tables rondes, sur ces comités de travail, sur ces groupes qui recherchent la question ad nauseam, et les rapports, les monographes, les données statistiques et la répétition, et qu'on concentre toute énergie au niveau du pays. À l'ouverture de cette conférence, Peter Piot a parlé des prochains 25 ans et il a bien fait. Il a dit que ça allait être difficile et long. Il a raison encore. Mais si dans les prochains 25 ans, nous allons aller de l'avant avec l'optimisme en partie de cette conférence et oublier les derniers 25 ans, si nous devons lier de façon inséparable la pauvreté et la maladie et poursuivre nos buts, ça doit se faire partout, fait par les pays eux-mêmes, par les agences qui travaillent au pays, sur le site, et la société civile, c'est elle qui doit en avoir la responsabilité. Voilà ce qui manque. Et voilà la tâche des délégués à cette conférence, de tenir responsable les pays et les organismes. Cette conférence, 16e conférence, beaucoup plus que toutes les précédentes, a donné une voix aux jeunes. Mais il s'agit d'une voix encore limitée et marginalisée, qui est bien le reflet de l'hostilité et l'ambiguïté du monde adulte. Les chiffres sont brutaux. 50% des nouvelles infections entre les gens âgés de 15 ans et 24 ans sont dues parmi les jeunes. Et qui peut oublier l'engagement des jeunes contre la pandémie? C'est une situation qui doit être solutionnée, qui doit être corrigée. Et elle doit être corrigée sans parler à grande voix de vouloir aider et de ne rien faire, et finalement de rien faire. Finalement, à mon opinion, comme savent sans doute les délégués à la conférence, la dimension la plus vexante et intolérable de la pandémie est ce qui arrive aux femmes. C'est le seul domaine VIH-SIDA qui me laisse avec un sentiment de rage et de frustration. Nous n'allons jamais gagner sur cette maladie tant que la voix des femmes ne devienne pas suprême dans cette lutte. Lundi dernier, le matin, on avait des enseignes qui disaient « Les droits de femmes, c'est les droits de la personne ». Voilà le slogan de la conférence de Vienne en 1993, répété à la conférence au Caire un an après. Mais en 1995, à Beijing, ça n'a jamais été quelque chose de véridique. Tant que contrôleront les hommes les portes du pouvoir et le pouvoir lui-même, ça ne sera jamais une vérité. Si c'est l'apparat de l'ONU, y compris les agences ou le nombre sans fin des panels de haut niveau, ou bien la commission Blair sur l'Afrique, ou la diminution des femmes est partout. Et là, c'est des exemples, quelques exemples. Dans le monde développant, la liberté de la violence sexuelle et le droit de l'autonomie sexuelle, l'indépendance sociale et économique, et même un peu de l'inégalité de genre, sont déjà quelque chose. Cette oppression sans fin dans tellement de pays dans notre planète, c'est une honte. Mes collègues intimes et moi, nous sommes arrivés à la conclusion qu'une des façons de diminuer l'impact du virus SIDA, c'est en créant une agence internationale plein de pouvoir pour les femmes, avec des effectifs jusque-là. Il faut avoir une voix, une capacité opérationnelle dans le site pour cette population. Il y a un panel ONU qui contemple la création de cette entité. S'ils ont le courage de faire face à la structure déformée et folle de l'ONU, s'ils trouvent le courage pour créer ce groupe, je crois que nous allons pouvoir trouver le courage d'arrêter ce génocide. Je vous demanderai, mes amis, d'entrer vous aussi à la lutte contre le SIDA. Il n'y a rien qui a plus d'importance dans ce monde. Toutes les routes mènent des femmes au changement social. Pour moi, lorsque je quitte mon travail, mon poste comme envoyé spécial, j'ai demandé que je sois suivie dans ce poste par quelqu'un qui vient de l'Afrique, mais encore plus important, par une femme africaine. Merci Stephen Lewis. Tu es une source de fierté énorme, tellement énorme pour nous les Canadiens. Voilà pourquoi les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et tous les autres, voilà pourquoi tous ces hommes-là appuient le droit de Louise Bender de terminer son discours dans sa plénière. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le Dr Pedro Kohn, qui est le président d'un des organismes majeurs en Argentine d'aide. Fundación Respeto travaille dans l'intervention clinique et des services pour les gens atteints du VIH-SIDA. À la fin de cette conférence, le Dr Kohn sera le prochain président de la Société internationale pour le SIDA. Le Dr Pedro Kohn, délégué, invité distingué, j'ai le plaisir de vous faire quelques remarques de clôture comme le prochain président de la société. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous de vous, les délégués, qui êtes venus de tous les coins du monde pour faire de cette conférence une telle réussite. Cela a été la conférence la plus grande de l'histoire jusqu'à présent, avec plus de 21 000 délégués et 5 000 personnes et plus qui participaient. Des effectifs, des bénévoles, des gens qui exposaient. Nous sommes également fiers que presque 2 000 délégués de 130 pays aient reçu des bourses pour appuyer leur participation. c'est la réunion la plus grande et la plus diverse qui a pour sujet une question de santé. Je crois que cette conférence est la preuve de l'importance du partage de l'expérience des réussites et aussi des leçons qu'on peut apprendre du manque de réussite. Je voudrais remercier les organisateurs de leur dur travail et aussi le Conseil national pour le SIDA, le Conseil international des femmes vivant avec le VIH, le réseau mondial des gens vivant avec le VIH. Nous sommes engagés dans un sens positif pour le principe JIPA. Je suis vraiment reconnaissant également à ONU SIDA et également à Toronto, au Conseil mondial, aux effectifs de Toronto et bien sûr aux milliers de bénévoles qui ont travaillé sans fin pour nous assurer un programme parallèle qui parlait de toutes les complexités de cette question. Je voudrais également remercier Helen Gale et Mark Weinberg pour leur leadership absolument extraordinaire. Je sais que la qualité de la science ici n'a jamais été plus forte. Pendant ces 6 jours, nous avons appris sur la promesse de nouvelles technologies de prévention, recherche dans les microbicides, des méthodes prophylactiques de pré-exposition et aussi toutes les recherches de collaboration pour trouver un vaccin de prévention. Plus que jamais, nous avons confirmé pendant cette semaine que la prévention et les soins, ce sont deux visages de la même médaille. Plus que jamais, de par ce qu'ont dit les scientifiques, nous avons maintenant l'occasion de travailler avec les gens atteints de cela et avec l'organisme qui appuie ces gens. Avec toutes ces recherches et ces connaissances, les outils ne seront pas efficaces sans le leadership politique essentiel pour mettre tout cela ensemble. Il faut continuer à exercer une pression sur les leaders du G8 pour qu'ils soient pour l'accès à la prévention universelle. On est encore loin d'avoir les 22 milliards dont on aura besoin en 2008 pour ce but. Et nous devons, comme dit le thème de la conférence, dire à ces gens là que maintenant est le moment de passer à l'action quant à cet engagement qu'ils ont pris. Encore, permettez-moi d'élever la voix de notre organisme. Nous n'allons pas souligner ceux qui acceptent que certains soient sauvés et d'autres ne soient pas sauvés et d'autres soient obligés à mourir. Qu'on soit très clair là-dessus, nos manques de réussite ont des conséquences dramatiques. Des milliers d'enfants, d'hommes et de femmes meurent chaque jour. C'est la preuve tragique de nos incapacités, incapacité de transformer les mots en action. Nous savons ce qui doit être fait, mais le choix devant la communauté internationale est très clair. Ou bien c'est le moment de passer à l'action, ou bien on continuera la tragédie. Également important dans notre réponse, c'est notre engagement envers les populations qui ont le droit aux droits de la personne. Nous savons maintenant que nous avons encore beaucoup à faire à cet égard. Comment faire une réponse efficace si nous ne pouvons pas sauver les communautés plus en danger, les gens, les hommes avec les hommes et d'autres groupes vulnérables comme les drogués par injection et les femmes, les enfants doivent être protégés comme les autres groupes partout au monde. Et les populations marginalisées et vulnérables sont toujours les victimes les plus tragiques. Que je sois claire, la pauvreté est le moteur clé de ces épidémies, comme la tuberculose, comme le paludisme. Il est difficile d'être avocat pour les droits de la personne sans considérer que 2/3 de la population du monde vivent avec moins de $2 par jour. Sur cela aussi, il est bien temps de passer à l'action. Il y a eu beaucoup de discussions sur comment résoudre le problème d'un manque horrible de travailleurs de santé. Les 2/3 reçoivent très peu d'argent ou travaillent dans des conditions dangereuses ou malsaines. Et ils sont également stigmatisés par le VIH. Voilà le défi. Que ce soit quelqu'un qui est travailleur de santé en Malawi, une infirmière en Bolivie ou un éducateur en Inde, il faut travailler plus pour donner des environnements plus sécuritaires, l'accès aux soins et les salaires appropriés pour ceux qui sont ceux qui nous aident à vivre avec la maladie. Les gradués dans les écoles de santé sont à peu près 25% des gradués dans le Royaume-Uni et au Canada, par exemple. Dans quelques pays, la mort arrive à prendre les travailleurs dans la santé plus vite qu'on puisse éduquer de nouveaux venus. La mortalité dans ce secteur doit arrêter si on doit faire des progrès contre cette maladie. Ça doit être une priorité dans les mois à venir et je promets de ce faire. Notre infrastructure est importante. Notre statut avec nos compétences est essentiel pour aller de l'avant et aussi pour garder une mémoire institutionnelle. J'aimerais remercier le Conseil de la société pour m'avoir donné l'occasion de prêter service aux membres qui sont plus que jamais. Comme le premier président qui vient d'un pays en voie de développement, j'espère pouvoir donner une nouvelle perspective sur ces questions tout en continuant à travailler ensemble avec mes confrères et consoeurs. En particulier, j'aimerais demander à tous les intervenants de ne pas oublier que l'Amérique latine, ma région, souffre également des conséquences de l'épidémie. dans le contexte de la pauvreté et de la marginalisation, les 2 millions qui vivent dans cette région avec le sida ne doivent pas être exclus de notre ordre du jour. Moi, ainsi que les autres membres du conseil de gouvernance, vont regarder ce problème et ensemble nous pouvons faire baisser la souffrance et minimiser la pandémie. Merci, c'est le moment de travailler ensemble et j'attends avec impatience de vous voir à la ville de Mexique en 2008. Nos vemos en México. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le co-président de la prochaine conférence, Luis Soto Ramírez, mon ami. Il est le chef de l'unité de maladies infectieuses au département de médecine à l'Université de Mexique. Il a reçu son diplôme en 82 et il a complété sa formation en médecine. Il est, je crois, quelqu'un qui doit être président. Il est sur le conseil depuis 2000 et il est le représentant original pour l'Amérique latine et les Caraïbes depuis. Amigos, délégués et invités distingués, j'ai beaucoup de plaisir à vous inviter tous et toutes à la conférence 17e conférence à la ville de Mexique en 2008. Ce sera la première fois qu'un pays latino-américain sera le site de la conférence la plus importante sur le VIH-SIDA. La Société internationale du SIDA et ses partenaires, ONU, CIDU, DMV+, ICW, etc., vont tous travailler pour avoir un programme intéressant. La réponse à la pandémie va éliminer, je pense, les outils nécessaires à la prévention. Nous allons bientôt annoncer les partenaires communautaires qui vont nous aider à planifier le programme pour le SIDA 2008. L'un des partenaires sera une agence non gouvernementale avec beaucoup de travail derrière elle dans ce domaine et l'autre sera un organisme du sud du monde qui œuvre dans ce secteur. En plus, nous devons dire que nous reconnaissons que nous avons besoin de davantage de représentation de domaines, de régions du monde, y compris l'Amérique latine, là où l'épidémie siège en particulier. Nous demandons de nouveaux partenaires, comme tous les autres co-organisateurs qui devraient être engagés à l'action, non seulement avec les paroles, pour fortifier l'engagement des gens qui vivent avec le VIH-SIDA au sein des organismes et au sein du programme de la conférence. Sans cela, nous ne pouvons pas espérer de tourner la page sur cette épidémie. Ce n'est pas par hasard que nous allons bientôt nous trouver en Mexique. Le Mexique a solutionné beaucoup de choses, beaucoup de défis dans sa réponse contre le sida. Il y a maintenant beaucoup plus d'accès aux agents antirétroviraux, comme en Afrique. Nous voyons un peu le même phénomène au Mexique qu'en Afrique. En plus, ce sont en plus dans notre région la stigmatisation et la discrimination des questions pas encore résolues. 68% des gens en Afrique, en Amérique latine, ont un accès aux rétroviraux, mais cela ne compte pas. Les gens qui sont déjà infectés ne le savent pas qu'ils sont séropositifs. Mais les chiffres, c'est des chiffres assez froids. Nous allons parler en 2008 d'êtres humains, dont la vie de chacun et de chacune, comme nous a dit Melinda Gates, sont de valeur égale. Que vous soyez gay ou que vous ne soyez pas gay, que vous soyez engagé dans le sexe tarifé ou pas, si vous soyez mestizo ou pas, riche ou pauvre, que vous soyez jeune ou vieux, il y a longtemps, on nous a rappelé qu'il fallait surmonter nos préjugés, parce que la seule chose que demande ce virus, c'est « Est-ce que vous êtes humain ?» La société internationale et son conseil, comme le représentant pour ma région et les Caraïbes, je voudrais remercier le gouvernement du Mexique, surtout le ministre Julio Frank, pour son appui à cette conférence. Nous nous attendons à travailler avec nos coordinateurs pour vous apporter le meilleur de la science, les groupes les plus intéressés communautaires de tous les coins d'Amérique latine à la ville de Mexique en 2008. Et j'espère que tous de vous seront présents. Finalement, permettez-moi de vous dire, et je serai bien bref, nous n'allons pas oublier, comme a oublié Richard Gere lorsqu'il parlait. Bonjour Amérique latine. Bonjour. Mexique, viva Mexico. Merci. Muchas gracias.
Voici moi présenter le conférencier suivant. le plus important pour le système mexicain pour les 50 dernières années, c'est la mise en œuvre par un docteur mexicain, ou c'est un officiel de l'Organisation mondiale de la santé, de la façon dont le système devrait fonctionner, la passion et le dévouement du ministre Frank sur la santé, la lutte contre le VIH-SIDA, et d'avoir la lutte contre la stigmatisation, la discrimination. Ça a été l'une des principales raisons pour laquelle la Société du SIDA internationale s'est tournée vers le Mexique comme l'idée pour la conférence internationale. Alors je suis donc très honoré de vous présenter le ministre mexicain de la Santé, le docteur Julio Frank Mora. Bonjour. Chers délégués, représentants nationaux, chefs, professionnels, scientifiques, activistes, femmes, hommes, jeunes, personnes qui vivent avec le VIH, des gens de la diversité. Au Mexique, nous avons passé 6 ans à nous préparer, à organiser la conférence internationale du SIDA. Maintenant, nous savons que nous avons un geste difficile à suivre après l'organisation formidable par Toronto. Comment est-ce qu'un pays en voie de développement se prépare à la tenue d'un événement de cette ampleur? Cela, on se prépare en changeant pour s'améliorer. On se prépare en réformant son propre système de santé, comme le gouvernement mexicain l'a fait, de façon à garantir l'accès universel à des soins complets, notamment la thérapie antirétrovirale. Ceci, nous l'avons réalisé au Mexique en offrant assurance médicale à tous les gens qui vivent avec le VIH, de façon à ce que nous puissions prendre soin de leurs besoins de santé ainsi qu'à ceux de leur famille. Ce n'est pas l'accès seulement aux médicaments, mais c'est l'accès à la vie. À titre de pays en voie de développement, on se prépare en mettant l'accent sur la prévention, en fonction de preuves scientifiques, en nous concentrant sur ce qui vraiment fonctionne. On se prépare en accroissant son budget sur le SIDA 14 fois pour le traitement et la prévention. On se prépare en lançant et en luttant contre la stigmatisation, la discrimination, la violence contre les femmes et l'homophobie. Toujours guidé par une méthode fondée sur les droits des personnes. On se prépare, comme le Mexique l'a fait, en amendant sa constitution et en adoptant de nouvelles lois pour empêcher et punir la discrimination. On se prépare aussi en demandant la participation de la société civile dans toutes les prises de décision importantes qui, maintenant, sont faites conjointement avec des professionnels, des activistes et des gens qui vivent avec le VIH, plusieurs d'entre eux et qui sont ici avec moi aujourd'hui. Un pays en voie de développement, comme le Mexique, se prépare à tenir la conférence internationale sur le SIDA en étant inclusive, en souhaitant la bienvenue à tous, en s'assurant que personne qui vit avec le VIH ou personne dont les apparences sont différentes n'est sujet à aucune restriction afin d'entrer dans notre pays. Au nom du Mexique, je remercie la Société internationale sur le SIDA de nous avoir choisis comme votre prochain hôte. Nous serons à la mesure de votre confiance en travaillant avec vous tous. Nous allons assurer que la voix de la jeunesse, des jeunes, des gens qui ont du sexe avec les hommes, des prostituées, ceux qui utilisent la drogue, des migrants, des populations indigènes, de tous les gens qui vivent avec le SIDA et ceux qui en prennent soin sont entendus bien clairement au Mexique. Nous allons faire de notre mieux pour avoir un programme excellent de séances de qualité pour créer un environnement. Non, nous devons tous apprendre les uns des autres pour nous assurer que vous allez sentir positif quant à l'excellent travail que vous réalisez. Alors, vous voyez, nous nous préparons en changeant pour nous améliorer. Et nous sommes maintenant tout prêts à vous souhaiter la bienvenue à Mexico, à vous souhaiter la bienvenue en Amérique latine, nous disons toujours. Mi casa es su casa. Chez moi, c'est chez toi. Merci. Au revoir. Maintenant, le temps est venu de transmettre la conférence de Toronto à nos amis, collègues du Mexique. Et j'aimerais dire, avant de le faire, que cela a été un grand honneur pour tant d'entre nous qui faisons partie de la société civile et de l'organisation non gouvernementale et membres de la communauté civile d'avoir travaillé à cette conférence. Ça a été tout un avantage pour nous à titre de société civile. Et c'est donc mon espoir très fier encore, alors que la conférence va maintenant se rendre au Mexique et ailleurs, que ces conférences vont continuer de servir à titre d'occasion pour améliorer le rôle de la communauté. Merci. Avec nous, pour la transmission, Elena Georges, qui a été élue à titre de députée conservateur de Cinco Gray au gouvernement conservateur. Elle est maintenant la secrétaire du ministère au commerce international, ainsi que notre bien-aimé maire de la ville de Toronto, le maire David Miller. Mesdames et messieurs maintenant,
à titre de coprésident de la 16e conférence internationale sur le sida, j'ai le grand honneur et le devoir d'annoncer que la ville de Mexico va accueillir la prochaine conférence internationale en l'an 2008. Et maintenant, je donne notre map monde, enfin notre globe terrestre, à Amistrato Robles, un bon ami et un excellent scientiste qui va prendre la distinction de coprésident. Nous vous attendons tous à Mexico. Vous n'allez jamais oublier cette expérience. Et maintenant, nous avons l'occasion de voir pourquoi Mexico continue à vivre dans la joie.
A land full of wonders, contrasts and myths. Welcome to Tenochtitlan, home of the Mexicas. Don't be afraid. Contrary to what most people think, there's a lot more than blood sacrifices. There was once a deity, half-human, half-myth, who was worshipped by the name of Quetzalcoatl, serpent of precious feathers, which symbolizes the duality of life and death, earth and sky, and everything that is good and wise. Quetzalcoatl never admitted sacrifices of the blood of humans nor of animals, but rather only of bread and roses, flowers and perfumes, and of incense. Also, he watched and prevented with much efficacy that which was harmful to any human being. Quetzalcoatl truly believed that only through respect, care, and compassion could human beings become divine beings. Welcome to Mexico City, site of spectacular infrastructure, amazing sights, and diversity of open-hearted people. We have been chosen as the first country in Latin America to host the 17th International AIDS Conference, which will be held from the 3rd to the 8th of August in 2008. Mexico is a laic state that supports science, believes in sexual and reproductive rights, and the use of condoms. Our country would never deny entry to any who carry HIV/AIDS. We have successfully submitted some initiatives in order to modify our constitution, thus creating a federal law against discrimination. Also, with the valuable contribution of NGOs, we have accomplished major achievements such as a prevention program to eradicate virus transmission through blood transfusion and universal access to antiretrovirals. We have managed to develop and broadcast social awareness campaigns against stigmatization, discrimination, and homophobia on a national level. And we're currently launching a major campaign with different strategies aimed to reach diverse profiles such as teenagers, parents, teachers, the gay community, transgenders, sex workers, people living with the virus, and society in general.
We still have some things to do. Empower women, diminish machismo, decrease inequity, improve ARV procurement, start a broad sexuality education program.
We have come a long way. Now we're paving the road to reach more people, spreading more and better information in each and every federal state. And we will continue to go for the extra mile. In recent years, Mexico has been changing. Now we have universal access to antiretrovirals. Now, all our HIV sexual transmission prevention policies are fully informed and based on scientific evidence. But above all, our main strategy is to continuously promote the use of condoms. Now we have a constitutional amendment to fight discrimination. Now, all our national AIDS policies are planned jointly with civil society and people living with HIV. Now we have a health reform that provides health insurance to all people living with HIV. Now Mexico is fully prepared to welcome you to the 17th International AIDS Conference in 2008.
Mexico is waiting for you now. Warm is not the weather, but our hearts. There is so much talk, so much to do. Together we can go after our goals. Mexico is longing for you now. But there's no enough for sure you'll come. We'll do our best to make you feel at home. Let us lift our spirits, reach for more. Mexico is ready for you now. We've come a long way.
avoir une surprise pour vous. En Kenya. Le plus important chanteur avec 30 ans de carrière professionnelle et 22 disques publiés. En Kenya, à cette engagée à des questions d'ordre social et aux droits de la personne depuis les années 80, est engagé depuis lors dans la lutte contre le sida. Alors, je veux la remercier de représenter la joie de vivre mexicaine. Mesdames et messieurs, Wojciech Korniela.
Que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. ¡Ah! También nuestro amor, que no somos iguales, dice la gente.
México de lucha contra el SIDA. Y esta canción que les voy a interpretar se ha convertido en un himno de lucha. Para todos ustedes yo vengo a ofrecer mi corazón.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Ya hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
¡Nos vemos en México! México 2008. Gracias.
Ron.
Merci. Virginia Leone. Colleagues, amis, Dr. Mark Weinberg et Dr. Alain Gale. Alors, je pense qu'après cela, maintenant, tout ce qui reste à dire, c'est que, officiellement, nous déclarons la 16e conférence internationale sur le sida terminée. Merci. Merci beaucoup. Et nous sommes impatients de vous revoir à Mexico. Merci.
Thank you.